Radio Estable.
Morning Edition from NPR.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
My ability.
Le message le plus important à l'attention des garçons, c'est que le type d'homme que je serai dépendra de ma capacité à gérer les pressions extérieures.
Et bien voilà ce qu'on dit aux garçons dans les bidonvilles de Nairobi où le taux de viol dépasse parfois les 20%. Et pour que cela cesse, et bien dans le même cours, on apprend aux filles l'autodéfense, aux garçons à ne pas répondre aux sollicitations de la drogue, de l'alcool qui influent sur leur comportement. Vous l'entendrez, c'est étonnant.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Mais c'est pas fini, les titres, mais c'est pas grave. On continuera avec Sous les radars et Florence Paracolos avec un insistant vocal qui fait peur. Vous le verrez, 19h50, la carte blanche des correspondants de France Inter, Grégory Philips notamment, et Pierre Benazé depuis Bruxelles, 18h55, Anthony Bélanger, et cette grève en Espagne. Alors comment ça se passe, la grève des femmes en Espagne? Mais tout de suite, rendez-vous avec deux femmes. L'une est tunisienne, l'autre est égyptienne. Leurs deux révolutions qui ont été très différentes, c'est le moins qu'on puisse dire, passent aussi, surtout peut-être, par une nouvelle place pour les femmes. C'est ce qu'on voit dans un instant. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bien le bonsoir à tous.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Voilà, je le disais, autour de cette table, on a, d'abord c'est le 8 mars, pour tout et tous, mais peut-être un peu plus cette année qui a été une année particulière et qui a rejailli sur nous toutes, sur nous tous aussi, depuis le monde occidental qu'on représente nous, et puis en essaimant peut-être, j'imagine, aussi ailleurs. C'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui être à la fois en Tunisie et en Égypte, en Iran aussi, on ira y faire un aller-retour, vous verrez, et comment ça, ces sociétés qui ont fait leur révolution, ou pas pour l'Iran, mais il s'y passe des choses en ce moment. Est-ce que le regard des femmes a changé, le regard sur les femmes aussi a changé? Bonjour à vous, Fawzia Zouhari. Vous bonjour. Êtes écrivaine, vous êtes franco-tunisienne, bonjour à vous. Shaina Abdel-Salam, bonsoir même. Bonsoir. Vous êtes égyptienne, vous avez été de la toute première génération, avant 2011 en fait, la précurseur de 2011 a commencé à bloguer. Aujourd'hui, vous habitez en France, mais vous continuez évidemment à être extrêmement active. Fawzia Zouhari, j'ai envie de commencer par vous, parce qu'on cite toujours la Tunisie en exemple, en fait, à cause d'un certain nombre de lois, notamment celles qui permettent à une femme d'épouser un non-musulman, notamment celles sur l'héritage, notamment celle même sur le harcèlement sexuel qui d'une certaine façon peut ressembler au nôtre. Est-ce que vous êtes l'exemple que l'on dit réellement? Est-ce que la Tunisie est devenue ça, cet exemple-là?
C'est-à-dire que sa révolution est historique. Elle date de 60 ans à peu près. Nous sommes les premiers, ce n'est pas pour nous en vanter, à avoir le code du statut personnel. Oui, il y a de quoi aussi. Et effectivement, ce n'est un scoop pour personne aujourd'hui de savoir que c'est le pays arabo-musulman où les droits des femmes, en tout cas au point de vue de la loi, sont acquis. Et la dernière, bien sûr, il nous en restait deux choses qu'on demandait, c'était l'égalité devant l'héritage, et la deuxième chose, c'était qu'une Tunisienne musulmane puisse se marier à un non-musulman. Ça, nous l'avons acquis.
Alors c'est fait, c'est acquis dans la loi, est-ce que c'est acquis dans les faits, est-ce que c'est acquis dans la société, est-ce que les deux marchent ensemble réellement?
Alors justement, donc il y a la loi. La mariée est trop belle, mais est-ce que la femme peut glisser dans ce costume? Voilà. Est-ce qu'elle peut user et en user si elle veut? En fait, non. Parce que il y a des bémols, il faut le dire. Il y a d'abord malheureusement des débats d'arrière-garde qu'on a eu avec la révolution. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, ah, mais pourquoi pas un retour à la polygamie? On a remis en question le planning familial et un tas de droits des femmes. Et là, du coup, on reculait. C'était ça qui se passait. Deuxième chose, il y a une véritable islamisation des mentalités. Et troisième chose, les jeunes filles ne militent plus comme nos générations à nous. C'est-à-dire qu'elles s'occupent d'autres choses, elles cherchent du travail, etc. Elles sont dans la société civile. Mais malheureusement, le féminisme que nous avons connu n'existe plus, pratiquement plus maintenant.
Et ça veut dire qu'on retourne réellement en arrière? Est-ce que les jeunes de la Révolution ont fait ce retour en arrière? Je vous pose la question parce que je pense par exemple à des films, à Kaouter Benania, La Belle et la Meute, qui raconte un viol et toute cette nuit dans les rues de Tunis pour tenter de trouver réparation à ce viol. Donc on a l'impression effectivement quand même qu'il y a plein de choses qui sont passées dans la société et qu'il y a plein de choses qui auraient été impossibles quand même sans 2011, ou pas?
Il y a plein de choses. Les femmes ont résisté. Vous savez, elles ont fait tomber le gouvernement islamiste. Il faut le savoir. Les femmes étaient dans la rue. La révolution s'est faite avec elles. Mais voici le paradoxe tunisien où les contradictions, maintenant, vous les trouvez très peu dans les postes de pouvoir, dans les postes de décision. Maintenant, elles agissent dans la société civile, mais on les retrouve pas en tant que femme véritablement libérée et demandant de plus en plus à avancer. Maintenant, vous avez une société tunisienne qui a voilé à moitié, qui est voilée à moitié. Donc, quelque part, c'est quand même un recul. Vous avez des mariages qui se font à la façon traditionnelle et religieuse, alors que c'est interdit. Donc, vous avez une société tunisienne qui est extrêmement évoluée et extrêmement rétrograde. C'est ça. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, pour l'homosexualité. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir une association qui reconnaît les homosexuels. Mais cette même liberté fait que dans certaines boutiques, dans certains magasins, on affiche « interdit aux homosexuels ». Vous avez, c'est là un peu la loi de... Vous avez d'un côté une grande évolution et de l'autre côté un recul et une sorte d'impuissance de la loi à s'imposer pour que les femmes avancent.
Ça veut dire que la révolution n'a pas touché aux codes sociaux, en fait. Au fond, elle n'a pas touché aux codes, en fait.
Non. Et je pense, parce que nous, on a attendu une révolution dans la révolution, comme les Égyptiennes d'abord, aussi. On a attendu que ces révolutions du monde arabe soient des révolutions pour les femmes. Il s'est passé la chose complètement contraire. Et je reste persuadée que la vraie révolution du monde arabe ne s'est pas passée. Elle n'est pas politique. C'est une révolution religieuse, c'est-à-dire une révolution aussi des mentalités et tout ce qui touche à la femme dans le corpus islamique et religieux.
Shahinaz Abdel-Salam, vous, du côté égyptien, vous aussi, vous attendiez la révolution dans la révolution, en fait. Est-ce qu'elle est venue un peu quand même, ou pas du tout? Vous l'attendez encore aussi?
En fait, je suis très d'accord, parce qu'en fait, c'est ce qui se passait en Égypte. C'est pareil, en fait, les femmes, ils ont avant 2011, elles étaient très peu à manifester, à parler, même de l'harcèlement sexuel, qui est vraiment, quand je dis toujours, c'est un cancer égyptien, un cancer de la société égyptienne. Et c'est très connu, l'Égypte, et tout le monde a vu aussi en 2011.
Pendant les manifs,
ouais. Oui, pendant les manifs. Et nous, les Égyptiennes, on souffre de ça dès l'âge de 11 ans, 10 ans, dans la rue, toutes les rues de l'Égypte. Donc avant 2011, c'est vrai que c'était très peu. On a essayé, nous, les blogueurs, mais c'était vraiment très limité. Mais après 2011, déjà, il y a eu beaucoup de femmes dans la rue. Moi-même, j'étais impressionnée. Les jeunes femmes et des femmes, toutes les âges, toutes les classes, qui étaient dans la rue manifestées. Et il y avait aussi des femmes qui ont commencé à parler de ce tabou-là, de l'harcèlement sexuel, de la violence sexuelle contre les femmes dans la rue. Et ça, c'était vraiment pour moi aussi, c'était nouveau. C'était à cause de la révolution. Il y a aussi beaucoup de filles, des jeunes filles aussi, qui ont porté le voile avant, quand elle était jeune, un peu plus jeune. Et après 2011, elles ont repensé à ça, elles ont retiré le voile. Il y a plein de femmes qui ont fait ça, des jeunes femmes. Moi, j'ai vu que, en fait, ce qui se passait, c'était vraiment dans la mentalité des jeunes filles. Et elles ont vraiment eu le courage de casser un peu toutes les restrictions, les tabous. Et voilà, pour moi, c'était ça.
Donc ça a été le moment d'euphorie. Et aujourd'hui, de ce moment d'euphorie, le même finalement qu'en Tunisie. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce moment d'euphorie-là? À quel moment ça retombe,
en fait, tout ça? Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, l'oppression politique, on a une dictature militaire. L'oppression, il n'y a pas de liberté. Moi-même, j'ai une amie qui est recherchée aujourd'hui parce qu'elle a fait un documentaire. Elle est recherchée par la sécurité de l'État. Je connais une journaliste. Il y a deux jours, elle voulait faire un reportage sur le tram d'Alexandrie. Elle était arrêtée. Ils l'ont accusée des accusations vraiment très 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 marrantes. Voilà, la liberté aujourd'hui, c'est fini. Ok, mais ça c'est au niveau politique. Mais ça reste toujours les femmes. Ça veut dire, moi j'ai vu, au moins sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est le seul c'est le seul espace. Quand il y a des débats sur beaucoup de sujets de femmes, de la femme, le hashtag de MeToo, on l'a eu aussi en Égypte.
J'allais vous poser la question. Ouais.
Vraiment aujourd'hui, mais même nous, on a parlé de ça. J'ai dit après 2011, depuis longtemps. Aujourd'hui, ce hashtag aussi nous a aussi fait parler les filles, les femmes. Et il y a eu des débats, des discussions. Ça avance petit à petit, vraiment. C'est vrai que c'est encore petit, mais je pense que l'acquis de la révolution, c'est qu'on a cassé les tabous, on continue à faire ça. C'est encore limité. Je peux pas dire que ça touche tous les Égyptiens, parce que la société égyptienne, c'est religieux, c'est fermé, c'est radical. Jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Mais c'est peut-être aussi, et ça marche aussi chez vous comme ça, Fawzia Zouari, c'est aussi ce que décrit d'ailleurs Leïla Slimani finalement au Maroc. On a l'impression qu'il y a une espèce d'hypocrisie de ces sociétés arabes, en fait, où il se passe plein de choses derrière les portes. Il se passe énormément de choses, mais sur le devant, finalement, on n'en parle pas, et c'est chacun chez soi, au final.
C'est-à-dire, oui, c'est typique d'un monde arabe aux musulmans depuis 14 siècles. On donne les signes extérieurs. On ne donne pas les signes extérieurs de la libération, on est voilée, etc. Mais à l'intérieur, il y a des femmes qui s'estiment complètement libres. Mais en fait, c'est une société de schizophrénie et d'hypocrisie. L'adage, d'ailleurs, musulman dit, tu peux contrevenir à la loi, tu peux pécher en quelque sorte, mais à condition de le faire derrière les murs ou derrière le voile. Donc on est libre derrière le voile, mais à partir du moment où nous sommes dans l'espace public, il faut respecter la religion. C'est ça qu'il faudrait fissurer. Il nous faudrait une société où les choses se disent, où les femmes sont bien à l'intérieur et à l'extérieur, où elles prennent possession de la cité avec leur corps.
Et pourtant, effectivement, c'est ce que vous disiez au début, vous êtes les premiers, vous êtes les seuls à avoir su séparer loi islamique d'un côté, loi civil, le loi tout court de l'autre, en fait, notamment sur les lois féministes. Donc, vous êtes à deux doigts, si
oui,
je puis dire.
On a eu un grand homme qui s'appelle Bourguiba. Et moi, je pense que les hommes politiques, quand ils veulent faire des choses, ils peuvent faire avancer la cause des femmes. Beaucoup plus que nos penseurs actuels, les nouveaux exégèses de l'islam, les penseurs, ils sont tout à fait respectables. Mais en quoi font-ils avancer le schmilblick, en quelque sorte?
Mais du coup, pardonnez-moi de vous interrompre, le fameux MeToo, et dont parlait Shahinaz Abdel-Salam aussi, comment on le reçoit en Tunisie et chez les voisins même? Est-ce qu'on voit ça finalement comme quelque chose de très très occidental? C'est un autre combat et c'est différent ce qui devra se passer chez vous, ou vous vous dites pourquoi pas le traduire en effet?
Non, c'est quelque chose, nous, de l'extérieur, à distance, on voit ça comme quelque chose qui n'est pas du tout étonnant, puisque le harcèlement, nous, on le vit tout le temps. On le vit dans la rue. Quand vous marchez dans une rue arabe, c'est quand même une violence en soi. Le viol conjugal, il se pratique tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est plus ou moins banalisé chez nous. Donc, quand l'Occident dit, ah, mais il y a des choses... Ce sont des actrices connues, moi, elles ont mis du temps pour s'exprimer. Moi, je préfère la petite caissière qui n'a pas pu le faire parce qu'elle ne pouvait pas, que tout ça. Mais ce n'est pas grave. La parole s'est libérée et je ne sais pas si vous avez remarqué, ce 8 mars, il y a une effervescence.
Oui.
Il y a de tout. Il y a de l'espérance, il y a de la désespérance, il y a des choses fissurées. Et nous, cette tradition qui veut se maintenir à coup de fatwa et tout ça, elle est en même temps fissurée. Et on saura demain ce qui va se passer.
Et Shahinaz Abdel-Salam, est-ce que là aussi, vous le sentez malgré tout? Est-ce qu'il vous parle à vous aussi, ce MeToo? Même si au fond, effectivement, c'est pas tout à fait à vous qu'il s'adresse, loin de là, même parce que vos sociétés fonctionnent différemment. Mais est-ce qu'au fond, vous vous dites, on va pouvoir en tirer nous aussi quelque chose ou pas?
Oui, bien sûr, ce qui se passe, moi j'ai vu, c'est vrai que c'était sur les réseaux sociaux plus, mais j'ai vu beaucoup de réactions, beaucoup de filles qui ont commencé à parler. Moi, j'étais vraiment, ça nous a donné un peu d'espoir. Moi, j'ai jamais perdu l'espoir, mais ça aussi, ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui parlaient. Pour moi, c'est pas vraiment occidental parce que même en Égypte, on parlait de ça il y a très très longtemps en fait. Entre nous, les filles, mais on n'osait pas trop parler à l'extérieur pour tout le monde, à nos familles même, à nos parents. On était harcelés dans la rue tous les jours, mais personne parle. Quand on gardait ça entre nous, vraiment. Aujourd'hui, on parle, on le dit, on crie. Vraiment, les femmes crient. Et je pense que c'est très très bien parce que les hommes, ils ont commencé à peut-être s'en choquer un peu aujourd'hui, mais ils commencent vraiment à sentir ça.
Oui, parce que c'est vraiment un raisonnement masculin que de dire non, c'est pas notre affaire, c'est pas nos oignons, c'est occidental. Je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il y a un féminisme occidental blanc, il y a un harcèlement occidental. Ben non, il y a un féminisme qui est celui qui défend les droits des femmes. Donc cette façon de nous renvoyer à chaque fois et nous traiter de traite parce qu'on demande des droits en disant mais non, ça c'est la colonisation, ça c'est le féminisme blanc. Il y a d'autres. Non, on dit il y a un féminisme taille unique quand il s'agit des droits des femmes.
Tiens, est-ce que vous connaissez Nasrin Sotoudeh? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle est avocate, elle est iranienne. C'est elle qui défend ces femmes en ce moment qui, extrêmement courageusement, en Iran, enlèvent leur voile, le mettent en haut d'un pic. Trois sont en prison quand même et risquent beaucoup. On va en parler juste après. Risque effectivement extrêmement cher. Nasrin Sotoudeh, c'est Valérie Krova qui l'a rencontrée.
Chacune d'entre elles pourrait être condamnée à 10 ans de prison. Mais 10 ans de prison, ça n'arrivera pas à éteindre ce mouvement. Ça peut même contribuer à l'étendre.
Si elles sont condamnées à 10 ans de prison?
Oui, peut-être que le verdict étendra même le mouvement, car maintenant, nos filles disent ouvertement qu'elles sont contre le voile obligatoire. Les trois ont affirmé cela devant le tribunal. Quand le juge leur a demandé pourquoi vous vous êtes comportées ainsi, les trois filles ont répondu qu'elles voulaient exprimer leur désaccord Elles ont demandé à la justice d'essayer d'organiser un référendum sur le voile obligatoire.
Quel argument vous allez mettre en avant pour les défendre ?
Notre premier argument, c'est que le voile obligatoire n'existe pas dans la constitution iranienne. Donc, si le code pénal islamique a obligé le port du voile, il a commis un acte contre la liberté des individus, et donc ce n'est pas légal. Une partie des femmes qui ont voté il y a 40 ans pour cette constitution étaient non voilées. À l'époque, le voile n'était pas obligatoire. Nous avons dit également au juge que s'il voulait considérer l'avis des juristes islamiques, plusieurs d'entre eux pensent que le voile n'est pas obligatoire dans l'islam. Beaucoup d'hommes croyants nous disent « le voile n'est pas dans notre priorité, ce sont les autres droits des femmes qui importent ». Mais je vous dis que celui qui a pu imposer aux femmes un mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et c'est aux femmes d'en décider et pas aux hommes.
Est-ce que vous pensez que ce mouvement de contestation a la sympathie de la population ?
Oui, beaucoup. Depuis que j'ai accepté de représenter ces filles, il m'arrive souvent dans la rue de rencontrer les gens qui me remercient pour mon travail et me disent qu'ils soutiennent ces filles.
Les hommes aussi ?
Oui, beaucoup d'hommes également. Les hommes et les femmes me le disent aussi.
Oui, elle s'appelle Nasrin Sotoudet, elle est avocate. Et il faut quand même dire qu'elle a fait 3 ans de prison. Cette femme, elle a été libérée lorsque Rouhani est arrivé au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a pas peur, qui parle vraiment. Quand vous l'entendez, Fawzia Zoari, est-ce qu'il se passe quelque chose selon vous en Iran en ce moment ?
Oui, d'abord, c'est un excellent rappel pour tous ceux qui veulent banaliser le voile. C'est une façon de leur dire...
Ce que j'allais vous dire, vous nous racontez que chez vous, on le remet, là, elles font ce qu'elles peuvent, pauvrettes, pour l'enlever.
Et même en France, tous ceux qui nous défendent maintenant le voile contre la laïcité, il faut rappeler que des femmes se battent aujourd'hui pour enlever le voile, qu'il y a des millions de femmes qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir tête découverte, qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'elles ne portent pas le voile. Donc, qu'on ne banalise pas le fichu, ce n'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, c'est une façon d'exclure le corps de la femme de la cité. C'est une façon de montrer qu'on doit et on veut toujours contrôler le sexe et la sexualité des femmes. C'est là où nous en sommes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que tous ces débats-là, en fin de compte, alors que là-bas, on s'attend à ce que l'Occident soutienne, en fin de compte, toutes ces franges de femmes qui luttent pour la liberté, eh bien, nous sommes dans un discours qui dit « Oh, mais comprenez-les, les pauvres, si elles se voilent, ce n'est pas grave, etc. »
Shahinez Abdel-Salam, est-ce que c'est un exemple ? Est-ce que vous regardez ce qui se passe du côté des Iraniennes en ce moment ? Vous oui. entendez un peu sourire quand on disait « Oui, toute la population est derrière. » Ça va peut-être
oui,
être un peu plus lent, mais bon.
En fait, je ne sais pas, pour moi aussi, en Égypte, ça me fait rigoler parce que je sais très bien qu'en Égypte, c'est pas du tout soutenu dans le voile. Je vois les filles, comment elles souffrent pendant le voile. Même les parents, ils sont contre, les amis, même au travail, parfois, elle est vraiment, quand elle enlève le voile, tout le monde veut pas parler avec elle. C'est vraiment un peu, voilà, c'est un peu dur aux femmes égyptiennes dans le voile. Je sais pas si l'Iran, ça m'étonne un peu que la société iranienne, ils sont d'accord, ils soutiennent ça. Moi, je trouve, mais bon, après, peut-être, je serais contente, alors.
C'est le mouvement à suivre, en tout cas, en ce moment, et voir comment se débrouillent ces femmes iraniennes qui courageusement donc mettent leur voile olympique. Merci mille fois, merci à toutes les deux, merci Fawzia Zoari, merci Shahina Abdel-Salam. Fawzia Zoari, j'en profite pour dire que votre dernier livre qui s'appelle Le corps de ma mère, publié chez Gallimard et chez Folio, là, juste à venir. Et merci mille fois.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Kenya où l'on apprend aux filles à se défendre et aux garçons à ne pas se mettre dans les conditions qui en feraient des agresseurs. Vous ferez la connaissance d'un assistant vocal effrayant, la carte blanche des correspondants à Washington et à Bruxelles. Et puis l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, oui. Comment ça marche la grève des femmes alors en Espagne ?
Eh ben, on va se poser deux questions. D'abord, ça marche très bien. Grand succès. On va se poser deux questions. Pourquoi un tel succès ? 5 millions de grévistes quand même dans la rue en ce moment en Espagne. Et pourquoi l'Espagne ?
Voilà. Avec des hommes briseurs de grève, si je puis me permettre. Allez, le petit tour de la planète continue. Voici Jack White, il est de Détroit, Connected by Love.
Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with rain. Relieve me and put it up
seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know
we're connected. We're connected.
We're connected.
White, Connected by Love sur France Inter. Florence Paracuelos est là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars, Florence nous embarque d'abord au Sri Lanka où l'état d'urgence a été décrété cette semaine.
Ce qui n'a pas empêché de nouvelles émeutes d'éclater hier dans le centre du pays. Des commerces musulmans ont de nouveau été incendiés malgré le couvre-feu. Et le blocage des réseaux sociaux n'a pas suffi à enrayer la haine qui se déchaîne depuis dimanche à Kandy, ville touristique, épicentre du bouddhisme singhalais avec son temple de la dent du Bouddha, une relique de Bouddha, donc les bouddhistes constituant les trois quarts de la population du Sri Lanka. Et précisément, tout est parti de la mort d'un jeune bouddhiste au cours d'une bagarre avec des musulmans. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de violence. 3 morts et 150 maisons et magasins appartenant à des musulmans incendiés en quelques jours. Le pays connaît une montée de l'extrémisme bouddhiste attisé par des moines radicaux. Ils accusent la minorité musulmane, 10% de la population, d'avoir la main mise sur l'économie. Ils protestent contre la présence de demandeurs d'asile rohingyas musulmans et persécutés eux aussi par les nationalistes bouddhistes au pouvoir en Birmanie. Et des rumeurs sont régulièrement prétexte à la violence. La semaine dernière, des foules ont attaqué une mosquée persuadée qu'un responsable musulman avait introduit des contraceptifs dans de la nourriture vendue à des Singhalais. Pour le chercheur spécialisé Jehan Gunatilike, interrogé par Al Jazeera, les bouddhistes extrémistes sont obsédés par l'idée de perdre une once de leur pouvoir de domination sur la société. À partir du moment où une minorité s'en sort bien économiquement, comme les musulmans, se bat pour son autonomie, comme les tamouls, ou encore quand les chrétiens sont accusés de faire du prosélytisme, c'est pris comme une menace du statut dominant des bouddhistes qui répliquent par la violence pour renforcer leur domination.
That dominance.
Voilà, les spécialistes et les militants des droits de l'homme accusent aussi le gouvernement singhalais d'avoir jusqu'ici laissé prospérer le sentiment d'impunité des bouddhistes radicaux. Ça va peut-être changer parce que cette situation commence à faire du tort, commence à faire peur aux investisseurs étrangers et aux touristes. Les États-Unis, par exemple, recommandent déjà à leurs ressortissants d'éviter de se rendre au Sri Lanka.
Alors, Florence, hier on skiait au Maroc, aujourd'hui vous nous emmenez skier, mais en Bulgarie.
Bienvenue à Banksot. 75 km de piste, on entend les remontées mécaniques, un sommet à 2600 mètres et un forfait défiant toute concurrence avec les grandes stations européennes. 28 euros la journée, c'est la station de ski la moins chère dans sa catégorie et c'est ce qui fait son succès. 150 000 visiteurs par an, des milliers de skieurs britanniques et russes en majorité. Le problème, c'est que le seul télécabine de la station n'est plus suffisant pour remonter tous ces skieurs. Banksot, c'est pas cher, mais il faut parfois faire la queue pendant 2 heures ski à la main pour remonter. Donc la station, gérée par un opérateur privé, a obtenu l'autorisation de construire une deuxième télécabine. Mais le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que la décision rend du même coup constructible la moitié de la surface du parc national du Pirine qui entoure la station. Et c'est un parc qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 35 ans. Du coup, la polémique enfle. Le Premier ministre bulgare a beau promettre que seule la télécabine sera construite, les opposants n'y croient pas. Dans un pays gangréné par la corruption, si c'est construit, possible, ce sera construit et bétonné, disent-ils. Un saccage environnemental se profile, selon le WWF. Des manifestations ont eu lieu devant le Parlement à Sofia. Le dossier a pris une dimension nationale, symbole de la défiance de la population envers ses institutions. La Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe et aussi le plus corrompu.
Allez Florence, tout autre chose. Qui sont donc ces assistants vocaux, ces voix qui nous répondent depuis nos téléphones ou depuis les boîtiers connectés?
Siri,
qui est Siri?
Okay, Google ou Alexa sont des intelligences artificielles, comme on dit pompeusement. Pour l'instant, ce sont surtout des sortes de télécommandes vocales, faut reconnaître, auxquelles on demande de mettre de la musique ou d'envoyer un mail, par exemple. Ce qu'il y a, c'est qu'elles nous écoutent tout le temps, ces assistants vocales. Ils nous écoutent tout le temps. Pour le cas d'Alexa, c'est le nom de l'assistante d'Amazon, qui fonctionne avec un boîtier. Il est tout le temps allumé par ses utilisateurs. Ils sont 20 millions aux États-Unis. Donc, pour s'en servir, déjà, il ne faut
pas
être...
Je ne trouve rien de connecté à votre maison en ce moment.
Pour s'en servir, il ne faut pas être très à cheval sur la confidentialité. L'an dernier, le FBI a demandé l'aide d'Amazon pour tenter d'obtenir des enregistrements concernant un meurtre commis dans une maison équipée du système Alexa, le système Echo. En plus de ça, il faut manifestement supporter ces rires intempestifs. Voilà, Alexa rit, et pas forcément au bon moment. Là, l'utilisateur qui a diffusé cet extrait qu'on vient d'entendre sur Internet a eu la frousse. Il était tranquillement dans sa cuisine quand ce rire sardonique s'est déclenché. Il a l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce alors qu'il était tout seul. Un autre a sursauté quand Alexa a ri alors qu'il parlait d'un dossier hyper confidentiel au bureau. Donc Amazon promet depuis hier de calmer Alexa en expliquant que probablement elle est un peu dure d'oreille. En fait, peut-être qu'elle pense qu'on lui dit Alexa, ris, parce qu'on peut demander à Alexa de rire. C'est la défense d'Amazon. Donc c'est le premier incident insolite rapporté par au sujet de ces nouveaux assistants vocaux. On pourrait en imaginer bien d'autres. Hein. Ça pourrait être le début d'un scénario.
Ça pourrait être terrible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Attendez, bougez pas.
Déjà, on peut la refaire rire. Voilà.
Siri, peux-tu remercier Florence?
Rien à redire,
Florence. Vous pouvez rentrer. C'est bien.
Allez. Au revoir, madame.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est au Kenya que je vous emmène ce soir dans le reportage d'un jour dans le monde, dans les bidonvilles de Nairobi, où le taux de viol, tenez-vous bien, dépasse souvent les 20%. Et pour essayer de faire tomber ce chiffre, de l'éradiquer même, des associations, notamment No Means No, donc non, ça veut dire non, parlent aux filles comme aux garçons, vous allez comprendre comment. Bonsoir Laure Broulard.
Bonsoir.
Autodéfense pour les filles, Laure, et masculinité positive pour les garçons, vous nous emmenez dans une école primaire de Korogocho, c'est dans la banlieue de Nairobi.
Oui, l'école Saint-Joël se trouve au milieu du bidonville, entre des maisons de tôle et des tas d'ordures. Et aujourd'hui, dans une petite salle de classe, également faite de tôle, une trentaine de jeunes filles de 6 à 15 ans, habillées de leur uniforme vert, encouragent leur camarade Leslie. Leslie qui tape de toutes ses forces sur des coussins tenus en l'air par les formatrices de Ujamaa en criant « non ». Ce cours d'autodéfense, c'est le moment préféré de Zahira, 14 ans, toute fine sous son voile coloré.
Ça s'appelle les armes et la cible, et l'on apprend les cibles qu'il faut viser sur l'assaillant, ses points faibles. Il y a l'aine, les genoux, les yeux, la gorge.
Et tu te sentirais prête à te battre si tu étais attaquée?
Oui, à 100%.
Zahira a grandi à Korogocho, un des bidonvilles les plus dangereux de Nairobi. Là, près de 200 000 personnes s'entassent sur moins de 2 km carrés. Ici, dit-elle, être une fille est un véritable défi.
Nous faisons face à de nombreux problèmes. Nous sommes victimes de discrimination. Et puis les garçons nous maltraitent parce qu'ils sont forts et ils pensent que nous sommes faibles.
Mais avant d'en venir aux mains, les jeunes filles apprennent à prendre conscience de leur environnement et surtout à faire usage de leur voix. Entre les bancs et les tables, une formatrice imite une écolière qui marche dans la rue. Sarah Moutoni, elle aussi formatrice, explique.
Ça s'appelle nommer le comportement. On leur dit que dès qu'elles se font toucher, elles doivent exprimer, crier ce qui se passe et l'endroit exact où elles se sont fait toucher. Là, elle vient de dire « arrête de me toucher les fesses ». C'est très important car cela fait peur à l'assaillant.
Pour Brittany, 11 ans, c'est la métaphore de la gazelle qui a porté ses fruits.
La gazelle est toujours consciente de ce qui se passe autour d'elle. Même quand elle mange, elle peut entendre les pas d'un autre animal qui se rapproche. Donc lorsqu'il y a un danger, elle peut s'enfuir rapidement et éviter ses ennemis. Car les gazelles ont de nombreux ennemis.
Dans les bidonvilles de Nairobi, le taux de femmes violées chaque année atteint les 24%. À titre de comparaison, en France, ce taux est inférieur à 1%. Des chiffres accablants, surtout que beaucoup de femmes ne bénéficient pas de soins car elles ne reconnaissent pas avoir été agressées. C'est ce qu'explique Maureen Awar, membre de l'équipe de Ujama Africa.
Some know that rape is just sex. I'm also a survivor. At one point I was raped, but I didn't know it was.
Pour certaines, le sexe et le viol, c'est la même chose. Je suis également une victime. J'ai été violée alors que je ne savais même pas. Et j'aurais aimé qu'à l'époque, quelqu'un m'ait appris tout cela. Avant, j'étais si passive. Si quelque chose n'allait pas, je ne disais rien. Je restais silencieuse. Je pleurais un coup et je passais à autre chose. Mais je n'étais pas en paix. On nous apprend à être gentille, à être humble, à être soumise. Donc la plupart du temps, lorsque ces filles sont agressées, elles ne vont rien dire. Mais grâce à nos interventions, elles peuvent maintenant parler de ce qui leur arrive.
Of what is happening to them. Et effectivement, selon différentes études qui se sont penchées sur cette méthode de prévention, le nombre de jeunes filles qui dénoncent les agressions dont elles sont victimes augmente de 20% après les interventions de l'association, tandis que dans certains quartiers, le taux de viol chez les filles diminue d'environ 40%, parfois plus. Une efficacité liée en grande partie à des interventions auprès des garçons. Je suis un homme, un vrai, je suis un combattant de la paix, je veux la justice. Dans la classe d'à côté, les garçons suivent un cours de masculinité positive. Dominique Louau, formateur, nous explique ce dont il s'agit.
The most important message to the boys is my ability.
Le message le plus important à l'attention des garçons, c'est le type d'homme que je serai dépendra de ma capacité à gérer les pressions extérieures. Ici, les pressions consistent à prendre de la drogue, à commettre des crimes, à maltraiter les filles. Donc ce sont des rôles de genre très ancrés dans la communauté que nous essayons de changer. Cela passe par la création d'un espace où le jeune garçon peut parler de ses problèmes. Car dans son monde, il ne fait face qu'à la peur, la honte et la violence. Nous tentons de lui montrer un autre chemin.
In his world, he's faced with shame, fear and violence. We are showing him a different path.
Dominique espère qu'à terme, ses élèves pourront s'interposer s'ils sont témoins d'une attaque, car pour l'instant, ils rencontrent beaucoup de résistance de la part des jeunes garçons. Mais il se dit persuadé qu'ils peuvent tous devenir des gentlemen.
Et on n'en doute pas, Laure Broulard, merci beaucoup pour ce reportage d'Un jour dans le monde sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Et la suite, le coin des correspondants de France Inter, carte blanche partout dans le monde. On commence à Washington. Bonsoir à vous Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Grégory, en ce 8 mars, cette initiative assez étonnante du New York Times, le journal américain est connu pour ses pages nécro, il en faut, chaque jour saluant la disparition d'une personnalité. Mais le journal s'est aperçu qu'en 167 ans d'existence, Grégory l'avait oublié, beaucoup de femmes, dont beaucoup ont marqué l'histoire des États-Unis. Erreur réparée donc aujourd'hui.
Oui, avec pour commencer 15 portraits de femmes, mais il y en aura d'autres, 15 femmes oubliées, négligées par cette rubrique nécrologique qui depuis 1851 occupe les dernières pages du quotidien. Et il y a des oublis vraiment étonnants. La photographe Diane Arbus, par exemple, morte en 1971 et qui n'avait pas eu droit à son portrait. Charlotte Bronté, romancière anglaise, l'auteur de Jane Eyre, rien sur elle non plus en 1855. Et puis il y a des femmes moins connues, mais qui incontestablement auraient mérité les honneurs du New York Times. Mary Ewing Otterbridge, première joueuse de tennis américaine, morte en 1886, Ida Wells, décédée à Chicago en 1931, journaliste, militante des droits civiques et qui toute sa vie s'est battue contre le lynchage des esclaves dans le sud des États-Unis. Chaque portrait, Fabienne, est passionnant. L'anglaise Ada Lovelace, morte en 1852, connue pour avoir écrit le premier programme informatique. Marsha Johnson, militante transgenre à New York dans les années 70, modèle pour Andy Warhol ou encore Emily Warren Roebling, qui a terminé la construction du Brooklyn Bridge à New York quand son architecte de mari est tombé malade. Le New York Times demande à ses lecteurs de lui fournir des noms d'autres personnalités oubliées pour aller publier leur nécrologie. Puis il y a celles qui ont eu droit à une nécrologie, mais comment dire, assez imparfaite. Une brève simplement pour la mort d'Harriet Tubman en 1913, alors que c'était une militante historique des droits civiques, ou encore Frida Kahlo, présentée à l'époque, d'abord comme la femme de son mari Diego Rivera.
Étonnant quand même, hein, Grégory, mais quand même d'un mot, parce que j'imagine que vous avez eu la curiosité, si on ouvre les pages nécro chaque matin, le pourcentage de femmes, c'est quoi ?
Ouais, alors là aussi, hein, c'est très surprenant. C'est le New York Times qui a fait les comptes. 80% des nécrologies publiées aujourd'hui sont des portraits d'hommes et surtout des hommes blancs d'ailleurs. 20% de femmes seulement.
Une dernière chose et rapidement, Grégory, il y a une autre femme exceptionnelle qui est dans votre actualité aujourd'hui. C'est Amelia Earhart, l'aviatrice disparue il y a près de 80 ans. Bah, il y a plus de mystère. On a retrouvé ses os.
Ouais, c'est-à-dire dans USA Today. On croit, c'est-à-dire dans USA Today aujourd'hui, l'aviatrice disparue quelque part dans le Pacifique Sud le 2 juillet 1937 lors d'un essai de tour du monde en avion. 3 ans plus tard, en 1940, on avait retrouvé des ossements sur une petite île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et bien, selon une nouvelle étude d'un chercheur de l'université du Tennessee, les ossements retrouvés seraient bien ceux d'Amelia Earhart. À côté des restes humains, à l'époque, on avait retrouvé aussi une chaussure de femme, un kit de survie et une bouteille de bénédictine, une liqueur, et ça je l'apprends aujourd'hui, qui a été particulièrement appréciée par l'aventurière américaine. Donc voilà, le mystère de cette disparition est peut-être enfin résolu.
J'ai presque envie de dire dommage, allez savoir. Merci beaucoup Grégory Phillips à Washington et direction Bruxelles. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir Fabienne.
Alors chez vous, il n'y a pas de grève générale des femmes, hein, comme en Espagne, on va le voir d'ailleurs dans un instant avec Anthony Bélanger, mais cette journée du 8 mars est quand même dans tous les journaux avec son lot de nouvelles plus ou moins réjouissantes, vous dites ?
Oui, les journaux flamands et francophones sont encore tous revenus aujourd'hui sur la polémique sportivo-culturelle qui agite la Belgique depuis le début de la semaine, avec la décision de la Ligue de football de choisir le rappeur bruxellois Damso pour écrire le prochain hymne de l'équipe nationale des Diables Rouges. Certains soutiennent l'initiative dans les colonnes du Morgen ou du Standard, en disant que c'est dans la culture du rap que d'avoir des paroles agressives et vulgaires, mais la plupart condamnent le choix de ce rappeur, Damso, dont les textes sont truffés d'expressions vulgaires, brutales, obscènes et insultantes pour les femmes la plupart du temps.
Eh ben dis donc, alors il y a tout de même des évolutions positives qui sont rapportées par la presse belge cette semaine. En l'occurrence, une condamnation pour sexisme, c'est la première en Belgique dont un documentaire a été le déclencheur.
Oui, on a beaucoup reparlé cette année en Belgique, depuis l'affaire Van Steen, d'un documentaire de 2012, Femmes de la rue, un documentaire que l'étudiante en cinéma Sophie Peters avait tourné en caméra cachée dans les rues de Bruxelles. Un documentaire qui montrait les multiples lazzi, commentaires vulgaires ou obscènes qui sont le lot de la plupart des femmes en Belgique. Une étude a montré à l'automne que 90% des femmes de moins de 35 ans avaient été victimes de comportements sexistes pendant l'année écoulée. Et après le film de Sophie Peters, effectivement, le débat public avait débouché sur l'adoption d'une loi contre le harcèlement de rue, la loi du 22 mai 2014, qui punit de 50 à 1000 euros d'amende et ou de 1 à 12 mois de prison les auteurs de harcèlement à caractère sexiste dans l'espace public.
Allez, Pierre Benazé, je vous presse et je suis désolée parce que le temps court aussi. Merci beaucoup. On se retrouve très vite dans Un jour dans le monde. Il est 18h55.
France Inter. Un jour dans le monde.
L'édito du jeudi avec Anthony Bélanger. Anthony, vous allez nous en parler, vous, de cette fameuse journée des Espagnols, donc des millions de femmes qui se sont mises en grève en même temps.
C'est même un succès retentissant. Rendez-vous compte, les principaux syndicats espagnols parlent de plus de 5 millions de grévistes dans les rues, hommes comme femmes d'ailleurs, mais autour du thème simple et clair, l'égalité des droits et des salaires. Et c'est donc bien l'Espagne qui a aujourd'hui décidé de porter haut le flambeau du féminisme. Cette grève a d'ailleurs pour nom, un nom, la grève féministe, parce que si cette grève a été convoquée dans plus de 170 pays dans le monde, c'est en Espagne que la mobilisation a été la plus impressionnante. Manifestations dans toutes les villes du pays, service minimum des transports, entreprises au ralenti. Alors, vu de France, ça semble logique. Hein. L'Espagne, après tout, c'est le pays des machos et du machisme, comme la France serait le pays des chauvins et du chauvinisme. Il est logique, donc, qu'à une situation de patriarcat aggravée par le catholicisme, voilà, réponde une forte mobilisation féministe.
Donc je sens bien que cette explication ne vous satisfait pas, mais ça tombe bien parce que moi non plus, en fait.
Exactement, on va essayer de voir pourquoi. D'abord, si l'Espagne était un pays si catholique, comment expliquer que des milliers de Français s'y rendent pour des fécondations in vitro, voire des avortements ? Comment expliquer aussi que le mariage gay a été légal plus de 10 ans avant la France ? Ensuite, l'Espagne est aussi un des pays d'Europe régulièrement cité et donné en exemple pour son ensemble de lois contre les violences faites aux femmes, depuis la protection, la dénonciation, la mise à l'abri et les réparations. L'Espagne, et c'est un cas presque unique en Europe du Sud, voire même du Nord, a fait voter en 2004 une loi organique, dite loi intégrale contre la violence de genre, votée à l'unanimité par le Parlement espagnol de l'époque, une loi qui a mis en place des institutions, des financements, des procédures judiciaires, des systèmes d'accueil, des cours dans toutes les écoles du pays, bref, un cycle complet de prévention, d'assistance et de répression des violences faites aux femmes, un succès unanimement unanimement saluée.
D'accord, donc tout ça c'est très bien, mais ça n'explique toujours pas le succès d'aujourd'hui.
Ben si, justement. 10 ans après la mise en place de ces outils de qualité, une génération entière de jeunes femmes ont été formées, averties, sensibilisées, voire politisées autour de ces problèmes qui n'ont jamais depuis quitté l'actualité. Une décennie plus tard, il est donc encore plus insupportable que ces problèmes persistent ou subsistent. Mais il y a une deuxième raison qui explique le succès d'aujourd'hui, une raison peut-être plus importante encore. L'Espagne va mieux, beaucoup mieux. La grande récession de ces 10 dernières années se termine en Europe, mais aussi et d'une manière plus spectaculaire encore en Espagne. La croissance du pays, rendez-vous compte, a été de 3,1% en 2017, un chiffre de rêve. Le chômage a perdu 10 points en 4 ans, c'est un record. Alors je ne dis pas que tout va bien, il y a toujours 17% de chômeurs en Espagne. Mais la période pendant laquelle les salariés et les familles ont dû faire le dos rond et accepter tous les sacrifices, toutes les humiliations, salariales notamment, eh bien cette période-là est terminée.
Donc ça veut dire que la période des revendications est venue.
C'est tout à fait cela. Les Espagnols veulent leur juste part du gâteau et ne supportent plus ces inégalités criantes que la récession n'a fait que creuser. Or, l'Espagne est un pays tout aussi passionné d'égalité que la France. C'est ce qu'ont parfaitement compris les syndicats espagnols qui ont placé cette journée de mobilisation sous le slogan « Sans égalité, pas de liberté ». Or, cette mobilisation réussie en Espagne devrait être suivie, à mon avis, de très très près en France. Parce que, comme on dit en Espagne, « Siempre nos quedará París », il nous restera toujours Paris.
Allez, muchas gracias Anthony, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr, le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Sébastien Paour, avec le téléphone sonne, on parle quota ce soir, 50-50, gaz et filles mélangées mais très bien comptées, et à tout de suite.